Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Jérôme Florin jusqu'à 9h15.
Il est 7h43. Jérôme Florin, vous recevez ce matin le Premier ministre sur RTL.
Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour.
Il y a une semaine, il disait qu'il n'avait rien à se reprocher. Et hier soir, le sénateur et ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, a finalement renoncé à intégrer le Conseil constitutionnel après des soupçons d'emploi fictif de sa fille. C'est vous, le président, qui lui avez demandé de se retirer ?
Non, pas du tout. Ben, pas du tout. C'est, d'ailleurs, il ne nous appartient pas, et il ne m'appartient certainement pas, de formuler une quelconque position dans cette affaire. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a une prérogative prévue par la Constitution qui est de nommer un tiers des membres du Conseil constitutionnel. C'est toujours une décision extrêmement importante parce que les membres du Conseil constitutionnel participent à la préservation de la démocratie dans notre pays. Ils ont une mission absolument éminente. Ce sont des sages, ils sont reconnus comme tels. Et évidemment, personne ne viendrait contester l'importance considérable du rôle joué par le Conseil constitutionnel. Il se trouve que le président du Sénat a fait un choix. C'est un choix formulé par le président d'une des assemblées dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelle, vous imaginez bien que je ne vais pas formuler un quelconque avis sur ce choix d'opportunité.
Mais il devait prêter serment devant le président de la République et l'Élysée avait choisi de reporter cette formalité à la rentrée.
Ensuite,
c'était un signe déjà.
Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été déterminés par le parquet financier. Là, c'est la justice qui s'exprime. Et pour les mêmes raisons de respect strict de la séparation des pouvoirs et de respect de la Constitution, je n'ai pas d'avis à formuler sur ce sujet. Voilà.
En tout cas, comme par hasard aujourd'hui, les députés votent définitivement la loi sur la moralisation de la vie publique.
Je n'en ai pas formulé, mais je me bornerai à dire, parce que ça n'est pas sans importance, me semble-t-il, qu'une fois de plus, on voit combien des pratiques dont je ne prononce pas sur la légalité de ces pratiques, c'est pas à moi de le faire, mais qui étaient probablement tolérées, peut-être acceptées pendant un temps, ne le sont plus aujourd'hui. Et si avec le président de la République, si les députés de la majorité ont souhaité qu'un des premiers textes soumis à l'examen du Parlement lors de cette session extraordinaire soit le texte visant à rétablir la confiance dans l'action publique, et qu'à l'intérieur de ce texte, on prenne des dispositions d'une très grande clarté pour interdire ce qu'on a appelé les emplois féminaux, c'est justement pour qu'il n'y ait plus ces zones complexes, longtemps tolérées mais aujourd'hui plus acceptées, et qu'on puisse repartir sur des bases saines. Je me réjouis, je vous le dis comme je le pense, je me réjouis que la majorité se soit inscrite résolument dans cette direction et ait tenu un engagement pris pendant la campagne. C'est avec ce genre de décision et de vote qu'on pourra continuer à avancer.
Et il y aura assez de députés pour voter cette loi aujourd'hui? On dit que beaucoup sont partis en vacances. Vous avez fait les comptes parmi vos troupes, vous êtes sûr?
On verra cet après-midi, mais j'ai toute confiance dans la capacité des députés, et notamment des députés de la majorité, à être très présents. Vous posez la question sur la participation au débat. Il se trouve que j'ai regardé un petit peu comment s'étaient passées les autres sessions extraordinaires qui avaient été réunies en 2012, en 2007, en 2002 aussi, et qu'il n'y a pas de précédent d'une participation aussi massive des députés, et notamment des députés de la majorité, aux travaux et à l'ensemble des travaux de la session extraordinaire.
Monsieur le Premier ministre, est-ce que dans ce contexte de moralisation...
C'est pas sans intérêt ce que je vous dis, parce que j'ai entendu... J'ai vu toute une série de prises de position sur des couacs, sur... Ce que je sais, c'est que les parlementaires, et notamment les parlementaires de la majorité, ont été extrêmement présents dans l'hémicycle et ont fait avancer des textes dont la portée est considérable pendant cette session.
Monsieur le Premier ministre,
il faut le saluer.
Est-ce que dans ce contexte, les ennuis de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ne sont pas pour vous une menace? Je rappelle qu'elle est visée par une enquête pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme dans le cadre d'un déplacement d'Emmanuel Macron lorsqu'il était
à
Bercy.
Elle s'est exprimée, Muriel Pénicaud, de façon extrêmement claire et extrêmement ferme sur ces faits et sur la polémique. Je ne sais pas si faut dire la polémique ou sur l'enquête qui était en cours.
Si elle était mise en examen, elle devrait démissionner.
Je peux vous le dire sur tous les tons et de façon très détendue. J'ai expliqué dès que j'ai pris mes fonctions que je fixais à l'ensemble des membres du gouvernement une règle d'une très grande clarté consistant à dire que si un membre du gouvernement était mis en examen, il était conduit à démissionner immédiatement. Alors, voilà. Donc c'est très clair. C'est formulé de façon très calme.
Voilà.
C'est une règle précise et j'en suis le garant.
La loi travail
et elle sera respectée. Mais une fois que j'ai dit ça, permettez-moi aussi de dire que Muriel Pénicaud, depuis le début, c'est-à-dire depuis sa nomination au gouvernement, a engagé des discussions extrêmement intenses avec les organisations syndicales et patronales. Elle l'a fait avec le souci de la bonne foi, du travail sérieux. Elle a ensuite présenté une loi d'habilitation complexe devant le Parlement, Assemblée et Sénat. Elle en a obtenu le vote dans d'excellentes conditions. Et ben, je voudrais lui rendre hommage, parce que c'est un travail considérable qu'elle a fait avec un calme et une envie d'avancer tout à fait admirable, et je tiens à le saluer.
Avec la loi travail, vous avez réussi l'exploit de fédérer toute la gauche contre vous, puisque la France insoumise, les communistes et la nouvelle gauche déposent aujourd'hui un recours devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous le craignez, puisque vous craignez également les manifestations annoncées pour la rentrée les 12 et 23 septembre, à l'appel de la CGT notamment?
Alors, c'est pas du même ordre comme réaction.
Non, mais ça montre que des choses se préparent.
La saisine du Conseil constitutionnel, c'est une des prérogatives des oppositions. Je trouve ça... J'ai absolument aucun commentaire, ça ne me pose aucun problème. Il faut que si les parlementaires de l'opposition souhaitent saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il examine la constitutionnalité de ce texte, ils ont parfaitement le droit de le faire.
Ils s'en prennent à la méthode, notamment. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps suffisamment d'exposer des amendements, que tout ça va trop vite.
Encore une fois, ils feront valoir leurs arguments. Le Conseil constitutionnel tranchera. Moi, je pense qu'il y a eu un débat d'une très grande intensité qui a duré longtemps, qui a permis à chacun de s'exprimer. Vous avez vous-même ou l'ensemble des commentateurs ont pu observer combien ce débat était à la fois intense et long. Et c'est très bien ainsi, parce qu'il faut pouvoir discuter des choses. S'agissant des manifestations que vous évoquez à la rentrée, je vais peut-être vous surprendre, moi je suis très attaché à l'ensemble des libertés dans ce pays. À la liberté de penser, à la liberté de s'exprimer, et à la liberté de manifester, qui est une liberté qui est reconnue en France et qui est défendue et préservée.
Donc si
certains souhaitent exprimer dans la rue de façon pacifique et maîtrisée des positions politiques, il n'appartient pas au Premier ministre ni de l'interdire, ni même de faire en sorte que ce soit un problème.
Monsieur le Premier ministre, on en parlait juste avant.
Mais,
allez-y.
Comme je suis attaché à la liberté, je sais aussi que la liberté est toujours encadrée en France, et je pense que les Français, ils ont envie d'avancer. Ils ont envie de mouvement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de blocage. Je pense qu'ils ont envie de mouvement. L'ensemble des dispositions qui seront contenues dans les ordonnances présentées à la fin du mois d'août,
le 31,
ont été évoquées avec les organisations syndicales et patronales. Avant l'élection présidentielle, le président de la République avait indiqué qu'il prendrait par ordonnance toute une série de mesures visant à atteindre les objectifs qu'il avait lui-même fixés. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une séquence qui résulte directement d'engagements pris pendant la campagne. Et j'insiste sur ce point, on est dans une situation extrêmement différente de 2016, où une loi avait suscité une très forte controverse.
Là, vous avez annoncé la couleur.
Parce qu'elle n'avait pas été préparée politiquement. Je le dis parce que je suis attaché à la liberté de manifester, je suis attaché à la liberté d'opinion, mais je suis aussi attaché à la démocratie.
On en parlait juste avant, monsieur le Premier ministre, avec Bénédicte Tassard. C'est l'autre gros chantier de la rentrée, le budget. Vous avez promis le grand écart, à la fois baisser les impôts et faire des économies, 20 milliards d'euros d'économies.
Est-ce que vous allez jouer franc jeu?
On l'a vu avec l'annulation des crédits affectés aux collectivités territoriales, 300 millions d'euros supprimés pour cette année. Les élus ont pris ça comme une trahison. Là, en l'occurrence, vous n'aviez pas annoncé la couleur.
Est-ce que vous nous laissez une minute pour faire la lumière complète sur cette affaire? Ben écoutez, prenons une minute, à mon avis ça les vaut. Il faut d'abord que nos auditeurs comprennent qu'il y a depuis très longtemps dans l'État une pratique qui s'appelle le gel des crédits. Qu'est-ce que ça veut dire le gel des crédits? Ça veut dire qu'on vote un budget, c'est formidable, on vote le budget l'année précédente, et puis ensuite quand on commence à le mettre en exécution, on dit dans chaque ministère on va geler tant de crédits. En général, c'est de l'ordre de 6 à 8% des crédits qui ont été vendus. On les gèle. Ça veut dire quoi, les geler? Ça veut dire que le ministre n'a pas le droit de les engager. Il les a dans son budget, mais il n'a pas le droit de s'en servir. Pourquoi? Parce qu'on veut garder une petite poire pour la soif et on ne veut pas les engager. On fait ça depuis des années, c'est des dizaines d'années qu'on fait ça. Nous avons, non pas annulé des crédits, nous avons annulé des crédits gelés. Ça veut dire que les crédits en question, ils n'avaient été engagés par personne. Donc on n'a pas arrêté des projets en cours.
Alors pourquoi les élus parlent-ils de trahison, de coups de poignard dans le dos? On a tout entendu.
Je suis fasciné qu'un certain nombre d'élus socialistes viennent nous reprocher. J'ai entendu le député du SOPT, qui en général connaît bien ces dossiers.
Même des élus de droite, David Bisnard.
C'est possible. Mais venir nous reprocher d'annuler des crédits qui avaient été gelés, alors que, par exemple, le gouvernement de l'année dernière avait fait exactement la même chose. Il avait annulé des crédits gelés. Donc je suis un peu surpris, ou plus exactement, je ne suis pas surpris, parce que tout le monde fait mine de penser que les mesures que nous avons annoncées pour 2017 résulteraient de choix que nous avons faits. La vérité, qui est extrêmement importante, c'est que conformément à l'engagement du président de la République, nous n'avons pas ouvert de loi de finances rectificative en 2017. C'est-à-dire que nous savions que la situation financière n'était pas bonne. Moi, je ne pensais pas qu'elle était aussi mauvaise, mais on savait qu'elle n'était pas bonne.
C'est un classique de renvoyer au gouvernement précédent.
Et au lieu d'équilibrer les sous-estimations volontaires dans les comptes de nos prédécesseurs, par des augmentations d'impôts, nous a dit on ne va pas augmenter en 2017 pour exécuter ce budget, on ne va pas augmenter les impôts.
Pourquoi une situation parlez de situation encore plus mauvaise, monsieur le Premier ministre?
Écoutez, pourquoi je parle d'une situation encore plus mauvaise que ce que je redoutais? Je ne me faisais aucune illusion sur le fait que les chiffres n'étaient pas très bons. Exactement pour les mêmes raisons que la Cour des comptes. La Cour des comptes, que nous avons saisie, a dit que si nous ne prenions pas de mesures énergiques, nous terminerions l'année à 3,2% à 3,2% de déficit. Ça veut dire qu'on était plutôt sur un horizon 3,3 ou 3,4%. Et elle a dit elle-même, après tout, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais on peut faire le crédit à la Cour des comptes d'être objectif, d'être neutre et d'avoir un regard apaisé sur les choses. Elle a dit elle-même que la préparation du budget précédent, celui que nous exécutons aujourd'hui, celui qui a été décidé par nos prédécesseurs, était marqué par une sous-estimation des budgets. Et même, elle a prononcé le mot, par un sujet lié à la sincérité de la préparation du budget. Alors, moi, je veux bien qu'on vienne me dire quand même, vous êtes extraordinaire, vous dites que... C'est la Cour des comptes qui a affirmé ça. Et nous, on gère ce sujet en faisant des mesures d'économie, c'est vrai, et surtout en préparant pour 2018 un budget que j'estime ambitieux et qui correspondra, lui, à l'ensemble des orientations annoncées par le président de la République et que je vais mettre en œuvre parce que je suis là pour ça.
Où est-ce que vous allez tailler notamment? Il y aura des levées de boucliers partout.
On va d'abord tailler dans les impôts. On va d'abord tailler dans les impôts. C'est-à-dire qu'on va baisser les impôts. Et je le dis sans hésiter, nous voulons baisser les impôts parce que nous pensons qu'il y a un sujet de trop grande pression fiscale dans ce pays, parce que nous pensons que cette fiscalité nuit à la compétitivité et des entreprises et du pays en général. Vous avez vous-même tout à l'heure, lors d'une chronique d'une grande clarté, indiqué qu'il y avait un sujet sur la compétitivité de l'économie française, notamment en matière du commerce extérieur. Nous voulons donc faire en sorte que l'économie reparte encore plus vite qu'aujourd'hui, que ça permettre la création d'emplois, bref, qu'on ne soit pas comme engoncé dans un pays qui ne bougerait plus et qui se contenterait d'une croissance molle et qui se contenterait de gérer au jour le jour.
Alors, quels
une situation qui se dégraderait.
Quels impôts concrètement, Edouard Philippe?
De façon parfaitement conforme à ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire que nous engageons une baisse de l'IS, c'est-à-dire que nous mettons en place un prélèvement forfaitaire unique sur le capital, c'est-à-dire que nous substituons à l'impôt de solidarité sur la fortune, à l'ISF, un impôt sur la fortune immobilière et qu'on sort l'ensemble des éléments relatifs à la production.
La gauche dit que c'est un cadeau aux riches, évidemment.
Écoutez, si on veut aborder la question du budget, qui est une question complexe, de la pire des façons, on regarde ligne par ligne et on dit ça c'est un cadeau à telle personne, ça c'est une punition pour telle autre. Un budget, c'est un élément construit. Le budget que nous proposerons au Parlement à l'automne est un budget qui tracera et qui retracera les choix politiques faits par ce gouvernement dans la ligne fixée par le président de la République.
Edouard Philippe.
C'est-à-dire plus de moyens à la défense. Parce que nous vivons dans un monde dangereux. On vit dans un monde dangereux, et donc il faut consacrer plus de moyens à notre défense, c'est-à-dire plus
la
de moyens à la justice.
La menace terroriste est toujours là, on l'a vu ce week-end, il y a eu l'arrestation d'un homme à la Tour
Eiffel. Absolument, c'est-à-dire plus de moyens pour la justice, parce que si nous ne donnons pas plus de moyens à la justice, et si nous ne veillons pas à ce que et la justice et le monde pénitentiaire fonctionnent mieux, alors nous aurons un problème de pérennité de notre démocratie et d'acceptation de notre démocratie. Donc, plus de moyens pour l'enseignement supérieur.
Donc il y aura des moyens partout, on a bien compris. Edouard Philippe,
il y aura des efforts partout, mais un budget, ça traduit
Monsieur
des choix.
Monsieur le Premier ministre, vous et tout le gouvernement étiez réunis hier soir pour un dîner à l'Élysée. C'était un dîner convivial entre amis ou un dîner de recadrage?
C'était un dîner très convivial, très détendu.
À ce moment-là, malgré les quelques cafouillages et les sondages en berne depuis quelques semaines?
Vous savez, j'ai pas une expérience très ancienne dans ce métier, certainement pas dans la fonction de Premier ministre et même dans le monde politique. J'ai 46 ans. Mais quand je regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, je vois une série de mes prédécesseurs, souvent estimables d'ailleurs, qui ont beaucoup cherché à gouverner en ayant l'œil rivé sur les sondages. Je ne crois pas que ça leur ait beaucoup réussi.
Merci, monsieur le Premier ministre Edouard Philippe, d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. C'est l'enfer, Matignon, comme on dit ?
Non, c'est un métier exaltant, difficile, avec des responsabilités importantes qu'il faut prendre très au sérieux. Mais je dirais pas que c'est l'enfer. Et je ne suis même pas sûr que ce soit plus dur que pour ceux qui, tels des médecins de campagne, se démènent, ou pour des gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller nettoyer des sols industriels et qui nous écoutent peut-être. Donc c'est pas un enfer, c'est un métier difficile avec des responsabilités, mais j'essaie de le faire sérieusement.
Merci Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe en direct sur RTL. Merci, bonne journée et bonnes vacances.
Merci beaucoup.